Les élections législatives 2024 sur Radio Prévert, nous en parlons, vous le savez bien, avec les différents candidats qui ont accepté de jouer le jeu démocratique dans la troisième circonscription de la Sarthe. Nous recevons aujourd'hui Romain Lemoigne. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Candidat présenté par le Rassemblement National.
Tout à fait.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci avec vous. On va évoquer bien évidemment les propositions du Rassemblement National pour les Français. On va s'intéresser aux spécificités de cette troisième circonscription de la Sarthe. Mais avant, quelques éléments de contexte et le plus important, puisque vous sollicitez les suffrages des électeurs, qui êtes-vous Romain Lemoigne ?
Tout à fait. C'est la plus importante des questions pour commencer, comme vous l'avez dit. Alors, je m'appelle effectivement Romain Lemoigne, j'ai 23 ans. Je suis assistant parlementaire, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, pardon, et donc effectivement je suis aussi depuis plusieurs mois maintenant responsable local du RN dans la circonscription, et donc effectivement j'ai mené à ce titre-là la campagne des européennes avec tous les militants présents sur la circonscription, évidemment tambour battant tous les week-ends, tous les soirs et évidemment tous les jours qui m'ont été permis par mon travail.
Et donc vous connaissez bien les moindres recoins de cette troisième circonscription de la Sarthe.
Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas un panneau d'affichage qui a été oublié. Donc effectivement, je les connais par cœur. On les connaît par cœur et on a une très belle équipe militante sur la circonscription, très active et très dévouée et qui d'ailleurs me touche beaucoup puisque depuis le lancement de la campagne législative, tout le monde est à mes côtés, tout le monde est très investi. Donc c'est d'ailleurs très très plaisant d'avoir une équipe aussi investie à mes côtés.
Vous évoquiez la campagne des élections européennes, justement. Ma question qui suit va y avoir trait. Qu'avez-vous ressenti le soir de la proclamation des résultats et surtout, si vous étiez devant votre télé, d'entendre le président de la République annoncer la dissolution? Vous allez être sincère et franc avec moi. Qu'avez-vous ressenti au moment où il prononce cette phrase-là ?
Pour être tout à fait honnête, une immense joie parce que c'est ce que réclamait le RN et Marine Le Pen depuis plusieurs mois. On le réclamait, hein, si on faisait un score très élevé aux élections européennes, on réclamait effectivement qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités, réalise son devoir de président de la République, qui doit être normalement au-dessus des partis, qui doit justement se conformer aux attentes populaires, se conformer à la majorité des Français, à leur attente, à leur plébiscite finalement. Et donc effectivement, moi j'ai ressenti ça comme une immense joie, une décision finalement démocratique et saine. Et donc effectivement, tout de suite, dès l'annonce, j'ai réuni mon équipe très proche, militante, pour commencer effectivement à se préparer pour la campagne.
À se préparer pour la campagne, c'est-à-dire que vous anticipiez une candidature de votre part dans cette troisième circonscription, Romain Lemoigne ?
Alors effectivement, si quand on veut être élu, on s'y prépare pas trois semaines avant. Il faut s'y préparer évidemment sur du long terme. Il faut se préparer à tout. Alors évidemment, par contre, je ne savais pas si j'allais être investi ou pas. Il fallait effectivement d'abord le soutien du parti. Et c'est pour ça que j'en profite pour remercier Marine Le Pen et Jordan Bardella qui m'ont soutenu dans cette candidature, dans cette investiture d'abord. Et donc effectivement, je suis le candidat du Rassemblement National soutenu par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Également, je précise, c'est important, par Marion Maréchal, puisque Marion Maréchal, et évidemment nous la remercions pour cela, a appelé à voter pour les candidats LR-RN, c'est-à-dire les candidats de l'Union Nationale. Et donc, effectivement, je suis le seul candidat de l'Union Nationale dans la circonscription, puisqu'effectivement, je porte les couleurs à la fois, évidemment, d'abord du RN, mais bien sûr de l'Union, c'est-à-dire des LR qui nous ont ralliés, donc du Parti Républicain, d'Éric Ciotti, et bien sûr, évidemment, de Debout la France aussi, parce que Nicolas Dupont-Aignan a appelé à voter pour les candidats de l'Union, donc voilà. Et bien sûr aussi de tous les électeurs patriotes qui souhaitent nous rejoindre. On est vraiment la principale force d'alternance, on l'a vu dans la circonscription aux européennes. Toutes les communes de la circonscription ont majoritairement voté. Le RN est arrivé en tête de dans toutes les communes hein, aux européennes. Donc je pense qu'on est la principale force d'alternance dans la circonscription, la principale force en fait d'alternance dont les électeurs, les habitants ont, je pense, véritablement besoin pour changer de cap, changer de politique et remettre un peu le territoire et le pays sur la voie du redressement.
Vous dites que Nicolas Dupont-Aignan a également soutenu votre candidature.
En fait, je veux dire, au national, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Je respecte son choix, hein, mais j'ai du mal à comprendre la candidature de
Monsieur Tronche.
Tout à fait. Je trouve ça assez étrange, en fait, parce que si on suit les déclarations de Nicolas Dupont-Aignan, notamment sur les plateaux à Paris, et d'ailleurs je le remercie évidemment pour cela, il appelle à voter pour les candidats de l'Union. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé assez étrange, finalement, qu'il y ait une candidature Debout la France dans la circonscription. Surtout qu'à mon sens, hein, je veux pas vous cacher, je partage beaucoup d'idées gaullistes. Enfin, je suis gaulliste de conviction, c'est-à-dire social, souverainiste, patriote, attaché à l'identité, à la lutte contre l'immigration. Donc c'est pour ça qu'en fait, je trouve ça simplement étrange et même absurde, parce qu'en fait, c'est probablement des voix inutilement divisées dans le camp national. Et donc effectivement, c'est le message que je voulais faire passer.
Et quand vous dites que vous êtes gaulliste, d'aucuns peuvent vous dire « Romain Lemoigne est gaulliste, mais il n'est pas au sein du parti traditionnellement reconnu comme étant héritier de cette famille politique, mais il est au RN. »
Alors effectivement, il y a beaucoup de débats sur l'histoire, mais je pense qu'il faut cesser avec la récupération politique sur l'histoire, finalement. Parce que c'est pas du devoir d'un responsable politique de récupérer l'histoire, et d'autant que si... parce que justement, le général de Gaulle, d'ailleurs, aimait à dire qu'il voulait pas qu'on récupère... son étiquette pour l'instrumentaliser. Mais moi, je pense que sur les fondamentaux politiques, nous sommes en réalité le seul parti gaulliste, ce mouvement gaulliste, c'est-à-dire social, patriote, souverainiste. On l'a vu, d'ailleurs, les Républicains, à l'époque, n'avaient pas soutenu, enfin, justement, avaient soutenu la réforme des retraites, qui est pour nous injuste et inefficace. Et donc ça, c'est justement, c'est pas une position gaulliste de soutenir une réforme inique, injuste, en plus inefficace. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun volet chez cette réforme qui permet de croire à une bienfaisance de cette réforme.
Vous êtes déjà en train d'entrer dans le vif du sujet, mais un mot, Romain Lemoigne, quand même, pour présenter la personne qui vous accompagne dans cette candidature, puisque vous n'êtes pas seul à vous présenter pour solliciter les suffrages des électeurs dans cette troisième circonscription de la Sarthe.
Tout à fait. Alors, mon suppléant est Sébastien Compin. Il est policier, il est habitant à Bessay-sur-Braye, une quarantaine d'années. Et donc, effectivement, je l'ai choisi, puisque déjà, je le connais depuis bien longtemps, et deuxio, parce que je sais qu'il connaît il sait ce que c'est que le quotidien avec des factures très élevées, il sait ce que c'est que le quotidien de l'insécurité, il sait ce que c'est que l'immigration menaçante, il sait ce que c'est que les classes qui ferment, parce qu'évidemment il a quatre enfants, donc il connaît tout cela, il est très sincère et dévoué dans son engagement, il est au RN depuis longtemps, et donc évidemment pour moi le choix était naturel quand il était question de réfléchir à mon suppléant.
Nous sommes donc en train de parler sur Radio Prévert des enjeux de ces élections législatives que d'aucuns décrivent comme étant les plus importantes de l'histoire de la France. Est-ce que vous avez le même avis ?
Oui, tout à fait, parce que je pense que pour la première fois de notre histoire depuis Général de Gaulle, hein, parce que bien sûr, Général de Gaulle, sa période était éminente et il a été très positif pour le pays, bien sûr. Je pense que depuis cette époque-là, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de basculer d'air politique. Là, on a vraiment l'occasion historique de changer, en fait, avec de tourner la page à 40 ans de politiques qui ont mené le pays à la ruine, qui ont mené le pays au délitement du point de vue de l'insécurité, de l'immigration. Parce qu'il faut bien savoir que, pour moi, on ne peut pas changer de politique sans changer de dirigeant. Ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec les mêmes discours, qu'on nous dit vous allez changer juste, en fait, de virgule dans le programme et les choses ont changé. On voit bien que non. La gauche, l'extrême gauche, les centristes, la droite modérée ont essayé le pouvoir et ça n'a jamais marché en réalité. Ça n'a jamais marché. Pourquoi ça n'a jamais marché ? Peut-être par manque de courage, par manque de voir la réalité en face. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut changer de dirigeant, il faut changer de classe politique et rassurer. Enfin, voilà, si on peut rassurer nos électeurs, nous sommes évidemment prêts à exercer le pouvoir. Nous avons des équipes qui sont derrière nous. Nous avons des projets de loi qui sont prêts. Nous avons déjà effectivement. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas seulement le conquérir, mais aussi l'exercer. Et on est très déterminés pour cela. Jean-Marc Bardella est très déterminé pour cela. Et il est prêt, Premier ministre, évidemment. Son programme est déjà prêt. Donc, j'ai plus qu'à dire donnez-nous les clés.
Alors, pour bien camper le décor, il y a un contexte, et vous en parliez, que vous avez sillonné la troisième circonscription pour la campagne des élections européennes. On a changé de registre, maintenant on est dans le cadre des élections législatives, et il y a des moments d'échange que vous avez dû avoir avec les habitants de cette troisième circonscription, Romain Lemoigne. Et moi, il y a quelque chose sur laquelle je voudrais que vous reveniez. Vous avez sûrement dû avoir entendu à plusieurs reprises, on ne les a jamais essayés, on veut les essayer. Comment vous recevez ça ? Parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas anodin de dire à quelqu'un, je veux essayer, je veux vous essayer. Comment vous recevez ça d'abord ?
Tout à fait. Ben, nous, on reçoit ça comme une immense responsabilité. Alors évidemment, c'est un immense honneur, hein, qu'une très grande majorité de Français nous plébiscite. C'est un immense honneur. Mais c'est aussi une grande responsabilité et c'est pour ça qu'on on va pas prendre le pouvoir pour faire la figuration. C'est pas ce qu'on veut. Justement, la pire des choses qui pouvait nous arriver serait de décevoir. Et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite, parce qu'on souhaite évidemment agir. Et on considère effectivement que tous les maux MAUX, tous les problèmes qu'on vit, ne sont pas une fatalité. Quand dans la circonscription, vous avez des dizaines de classes qui sont menacées de fermeture, 30% des habitants qui n'ont pas de médecin traitant, un pouvoir d'achat qui baisse considérablement, des agriculteurs qui manifestent à juste titre contre la concurrence déloyale, contre l'inflation normative, mais à tous ces sujets-là, moi je ne considère pas que c'est une fatalité. Je vais prendre un exemple très concret. Au Parlement européen, en début d'année, les députés macronistes ont voté un accord de libre-échange avec le Chili, tout le bien avec le Chili, qui impose l'importation chaque année de milliers de tonnes de volailles supplémentaires. Et bien ça, moi je crois qu'on pourrait d'emblée tirer un trait dessus. Pourquoi imposer l'importation de milliers de volailles, enfin de poulets, alors qu'en Sarthe, on a un excellent label, on a une filière avicole excellente. Quelle est la logique, en fait? Donc, pour moi, il y a plein de sujets sur lesquels le politique peut agir, et c'est ce qu'on propose au Rassemblement National. Pareil sur la carte scolaire. La carte scolaire, c'est un choix politique, en réalité. Il est bien évidemment possible de défendre nos classes, nos écoles, et donc c'est pour ça que moi, je pense que si nous sommes au pouvoir, nous pourrons agir, et nous agirons d'ailleurs sur tous ces leviers-là, pour lutter contre effectivement l'abandon finalement des services publics essentiels dans notre territoire, qui est la Sarthe.
Alors, on a avec vous encore une vingtaine de minutes à passer ensemble pour passer en revue les mesures que vous estimez les plus urgentes à mettre donc au cœur des prochaines semaines, si j'ai bien compris l'urgence de la situation que vous décrivez. Quel est, selon vous, le premier levier sur lequel vous pourriez agir en matière de pouvoir d'achat, puisque c'est la première préoccupation des Français, Romain Lemoigne?
Tout à fait, par des mesures très concrètes, notamment baisser la TVA sur les énergies à 5,5%. Ça, c'est un choix que le politique peut faire d'emblée et qui est évidemment largement faisable, hein, mais que les dirigeants, peut-être par manque de courage ou je ne sais pas, par mépris, n'ont pas employé, hein, c'est une mesure qu'ils n'ont pas faite. Alors bien sûr, à l'automne, c'est ce que propose Jordan Bardella, nous allons abroger la réforme des retraites, qu'on juge inefficace et injuste. Et bien sûr, là, toute notre politique, c'est celle de la relance économique, c'est celle qui veut permettre aux Françaises et aux Français d'avoir de nouveau du pouvoir d'achat, d'avoir de nouveau l'activité économique, parce que c'est l'activité aussi qui irrigue, bien sûr, les salaires et qui permet aux Français d'avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé.
Et par rapport à la baisse de TVA sur l'énergie, est-ce que ça sera également couplé à ce que vous disiez au niveau national, qu'il va falloir renégocier en matière énergétique à l'instance, à l'échelon européen? Est-ce que c'est quelque chose qui va être facile d'obtenir ce que vous voulez, si les Français vous font confiance?
Alors justement, effectivement, comme vous le dites, on veut revenir, c'est extrêmement important, sur les règles injustes de tarification européenne de l'électricité, qui évidemment sont un véritable coup de boutoir pour nous, hein, parce qu'elles haussent nos factures d'électricité de manière absolument incroyable. Et donc effectivement, nous, notre calcul, notre ambition, et d'ailleurs évidemment on est prêt pour cela, c'est que si on négocie ces règles iniques, en fait, qu'on revient dessus et qu'on les abroge sur le modèle espagnol, c'est-à-dire qu'en fait on a une dérogation qui nous permet de profiter du nucléaire sans avoir un prix de l'électricité aligné sur celui du gaz, eh bien cela permettrait de diminuer de 30% les factures d'électricité, ce qui est évidemment déjà colossal. Et moi, nous, le RN, Marine Le Pen, Jordan Bardella, n'ont évidemment pas peur de la négociation. On n'est pas n'importe quel pays, nous sommes la France, nous sommes un pays fondateur de l'Union Européenne, un pays qui, sous le général de Gaulle, justement, avait permis effectivement d'imposer ses intérêts, parce que c'est notre but, hein. Nous sommes un pays, les pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie, essaient d'imposer leurs intérêts, ils ont raison, nous sommes un État-nation, on doit d'abord défendre les nôtres. Et moi je pense qu'un pays comme la France, qui est, en termes de population, l'un des pays les plus grands d'Europe, doit se faire respecter, peut se faire respecter. Et voilà, rassurez-vous, si nous sommes au pouvoir, si Jordan Bardella est Premier ministre, évidemment, nous négocierons et nous obtiendrons cet aval de la Commission européenne, il n'y a pas le choix.
À part la baisse de la TVA, donc, que vous voudriez voir à 5,5% sur les énergies, est-ce que, en matière de pouvoir d'achat, il y a d'autres mesures emblématiques, urgentes, qui pourraient être prises?
Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a pléthore, hein, en réalité. On a fait un listing de plein de mesures justement pour aider le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Très concrètement, on parlait de l'Union européenne, diminuer la contribution à l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en 2022, la France a donné 10 milliards d'euros à l'Union européenne par an, ce qui est absolument colossal. Donc ça, là-dessus, évidemment, on peut revenir là-dessus. On considère que dès cet été, si on baisse la contribution française, on pourrait obtenir 2 milliards d'euros. Donc ça, c'est évidemment, ça, in fine, c'est le pouvoir d'achat des Français qui s'en trouve renforcé. Donc il y a évidemment cette mesure-là. Il y a évidemment la mesure aussi de l'aide médicale d'État. On compte revenir dessus, puisque l'AME, donc, qui pour rappel, une aide versée aux immigrés clandestins qui rentrent en France, c'est 1,5 milliard d'euros par an. C'est absolument colossal. C'est absolument colossal. Et donc nous, effectivement, on propose d'abroger cette aide-là et de la reconvertir en aide d'urgence, simplement pour les urgences vitales, évidemment, parce que nous sommes humanistes. Mais voilà, du reste, effectivement, si on peut faire des économies sur cette mesure-là, évidemment, il y a plein d'autres. Hein.
Alors, Romain Lemoigne, vous avez sûrement dû avoir des échos, peut-être vous allez nous situer par rapport à la mesure qui était annoncée concernant eh bien, le pouvoir d'achat toujours, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Jordan Bardella a dit que ça ne pourrait se faire dans un premier temps, mais que ça le serait dans un second temps.
Ah oui, justement, je veux rétablir la vérité là-dessus, parce qu'il y a pas mal de commentaires dans les médias, justement, nos adversaires qui instrumentalisent cette déclaration de Jordan Bardella. Faut qu'on la précise bien, on va évidemment revenir sur cette mesure et on va la faire, on la fera à l'automne. Parce que nous, ce qu'on considère d'abord, c'est qu'il faut mener un audit sur les comptes publics, ce qui sera fait effectivement dans les mesures urgentes. Hein, dans le premier temps, dès qu'on sera au pouvoir, c'est-à-dire dès cet été, on va mener un audit public pour évaluer l'état des comptes. Parce qu'effectivement, la dette, il faut savoir aussi que la dette, évidemment, c'est une répercussion sur notre pouvoir d'achat. Et voilà, les macronistes, M. Macron, c'est 1100 milliards de dettes à lui tout seul. 1100 milliards de dettes, donc c'est évidemment colossal. Et nous, on considère qu'une des priorités, évidemment, c'est aussi de revenir sur cette politique de non contrôlée en matière de budget pour évaluer là où il faut taper du poing sur la table pour ensuite mener nos réformes. Et encore une fois, cette réforme-là que vous citez, évidemment, nous la mènerons à bien. Elle est prévue en automne et nous la ferons.
Est-ce que si vous découvrez que la situation est difficile, c'est-à-dire que il va falloir faire des choix, que vous allez revenir, vous aurez le courage politique de dire aux Français qui, je vous le rappelle, vous ont dit « on va vous essayer, on compte sur vous ». Et est-ce que vous aurez le courage de leur dire « ça, on l'a promis, mais on ne peut pas le faire, Romain Lemoigne ».
Non, mais en fait, tout ce qu'on a promis, on va le faire. Ce sont des promesses, c'est écrit noir sur blanc.
Mais
c'est des promesses, qu'on le fera. On le fera, on va pas prendre le pouvoir pour décevoir et pour trahir nos engagements. Nous sommes des... Nous sommes des démocrates, on considère que la politique, ce n'est pas faire de la figuration ou simplement des beaux discours, mais justement répondre aux attentes populaires. Et donc évidemment, on le fera et on s'y tiendra.
Et hier soir, j'ai écouté vraiment assidûment Jordan Bardella sur France 2, donc je cite mes sources, pas fake news du tout, et il a dit « il ne suffit pas d'arriver avec une baguette magique et de dire « je vais résoudre tous les problèmes qu'il y a depuis 20 ans ». Donc ça rejoint ce que vous disiez, responsabilité, et aussi dire que même s'il y a des problèmes urgents, si vous dites qu'il va falloir faire un audit, donc c'est-à-dire voir ce qui peut être fait maintenant et puis peut-être décaler dans le temps.
Ah bah, de toute façon, évidemment, on ne prend pas le pouvoir pour une semaine, hein. On le prend pour plusieurs mois, on espère plusieurs années. Donc évidemment qu'on va mettre en place des mesures à chaque instant du pouvoir. Donc effectivement, ce que veut dire Jordan Bardella par cette déclaration, c'est qu'effectivement, on se prépare à l'exercice du pouvoir et on va tout faire pendant les années qui viennent pour mettre en place toutes nos mesures et on le fera. On le fera, évidemment.
Romain Lemoigne, candidat du Rassemblement National et puis des LR version Ciotti.
C'est ça, tout à fait.
Sur Radio Prévert, il est candidat avec Sébastien Compin dans la 3e circonscription de la Sarthe. Il y a un sujet qu'on évoque toujours au registre du pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 des Français. Vous y avez fait allusion, mais j'aimerais que vous y reveniez. L'accès aux soins, la santé sur nos territoires, je ne vais rien vous apprendre. C'est un sujet éminemment important. Qu'entendez-vous faire pour qu'il y ait plus de médecins sur nos territoires? Et vous l'avez remarqué sans doute, cette 3e circonscription, elle est majoritairement rurale. Qu'entendez-vous faire pour fixer des soignants sur le territoire? Et puis, problème factuel, pour que des gens aient des médecins traitants, parce que ça, c'est aussi poignant. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire soigner dans la proximité. Ils sont obligés d'aller consulter dans d'autres départements, même à Paris pour certains, même du côté de Nantes pour d'autres.
Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, hein, plus de 100 000 Sartois n'ont pas de médecins traitants, ce qui est absolument colossal. Enfin, évidemment, non seulement injuste, mais en plus inacceptable. Alors nous, ce qu'on propose, il y a plein de mesures encore une fois, hein, mais ce qu'on propose notamment, c'est que les médecins retraités, qui, voilà, dans le cadre du cumul emploi-retraite, puissent être exonérés de l'impôt sur le revenu pour reprendre leur activité justement, et pour permettre effectivement de désengorger en fait les déserts médicaux. Nous proposons aussi bien sûr des incitations financières très fortes, et puis même au-delà de ça, il faut savoir que il y a les médecins, c'est un problème absolument inacceptable que voilà, 30% des habitants de la circonscription n'aient pas de médecin traitant, mais il y a aussi les pharmaciens, justement 30% également, c'est ce que dit l'INSEE, hein, 30% des habitants de la circonscription n'ont pas, ont des difficultés à accéder à une pharmacie, ce qui pareil est évidemment une injustice absolument inacceptable. Et puis, bah, vous le savez, effectivement, que ce soit à Château-du-Loire, à Saint-Calais, des urgences ferment, même parfois ponctuellement, mais c'est déjà un problème et une injustice qu'elles ferment ne serait-ce que deux jours ou une semaine. Ensuite, il y a des hôpitaux qui menacent de fermer. À Château-du-Loire, c'est la même chose. Donc, face à tout cela, il faut qu'en fait l'État prenne ses responsabilités. L'heure n'est plus aux coupes budgétaires, l'heure n'est plus aux reniements ou au manque de courage. Il faut effectivement soutenir l'hôpital public, il faut sécuriser l'approvisionnement en médicaments, il faut soutenir nos médecins, il faut soutenir effectivement tous les leviers possibles, dont celui, comme Jordan Bardella le dit, de permettre aux médecins retraités d'être exonérés d'impôt sur le revenu dans le cadre de leur cumul emploi-retraite.
Et on doit également parler avec vous de l'agriculture, hein, qui est un poumon pour le département de la Sarthe, et votre circonscription, celle dans laquelle vous vous présentez dans le cadre de ces législatives, a un grand nombre d'exploitants agricoles. Que leur dites-vous, à part ce que vous avez mentionné concernant l'accord de libre-échange avec le Chili, c'est ça, vous avez mentionné ça, oui. Et ce qui me permet de rebondir en disant, est-ce que en matière d'accord de libre-échange, vous allez revenir sur tout, est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures de rétorsion des pays qui ont des relations commerciales avec la France?
Tout à fait. Je précise au passage qu'on n'est pas évidemment hermétique à tout accord de libre-échange. Il y a des accords qui peuvent être sains pour nous. Ce qu'on considère fondamental, en revanche, c'est qu'il faut qu'il y ait des clauses miroirs. C'est-à-dire que si on apporte, des produits agroalimentaires quels qu'ils soient, hein, ou de la viande, il faut évidemment qu'en revanche, les normes, en fait, la viande qui est importée respecte les attendus, les critères de notre viande chez nous.
Les normes qui sont appliquées.
Tout à fait.
Voilà, soit équilibré.
Exactement. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire que les normes de qualité, les normes sanitaires, les normes même sociales d'ailleurs, soient équivalentes en fait entre les deux productions, entre celle importée et la nôtre. En réalité, la plupart des accords de libre-échange ne respectent pas cela. C'est notamment le cas du Mercosur, qui d'ailleurs au passage précise n'a pas été effectivement encore entériné, mais dont un des membres, pour faire simple, un des membres des services de la Commission européenne a dit avant les élections européennes d'ailleurs, une fois qu'elles seront passées, nous le ferons adopter. On ne peut pas le faire maintenant parce que les peuples vont se rebeller. Donc tout ça pour dire qu'à Bruxelles, il y a des gens qui consciencieusement veulent prendre des décisions dans le dos de nos agriculteurs. Et ça, évidemment, nous, on considère ça inacceptable et on va lutter contre, naturellement, parce que revenir sur l'accord de libre-échange, c'est possible. Lutter contre la concurrence de l'OL, c'est possible. Lutter contre l'importation de produits qui ne respectent pas nos normes, c'est possible. Par exemple, très concrètement, l'Union européenne impose l'importation de poulets ukrainiens. Alors évidemment, nous, on soutient l'Ukraine dans sa légitime défense. On la soutient de toutes nos forces. Mais quel est le sens d'importer des milliers de poulets ukrainiens qui sont beaucoup moins chers, beaucoup moins normés, beaucoup moins qualitatifs que les nôtres, alors que si en sorte, on a une filière avicole excellente, réputée? Moi, je comprends pas. Et en plus, effectivement, d'un point de vue écologique, les circuits courts sont la meilleure des solutions. Donc, face à tout cela, effectivement, moi, je soutiens nos agriculteurs, naturellement, et l'arboriculture aussi, qui est très importante dans la région, dans le sud de Sarthe. Et donc, par des mesures très concrètes, évidemment, notamment le patriotisme économique, hein, qui, faire primer nos produits locaux dans nos cantines, dans nos collectivités. Finalement, ce n'est pas seulement une mesure politique, c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est ce qu'attendent les gens, à juste titre, et c'est ce qu'on va mettre en place.
Alors, vous aviez également évoqué, Romain Lemoigne, les autres points clés de votre programme en matière de sécurité aussi. On est déjà à 5 minutes de la fin de cet entretien.
Ça passe très vite.
Ça passe tellement vite. Et il faut qu'on respecte le même nombre de minutes pour tous les candidats qui vont se succéder dans ce studio. Est-ce que vous avez d'autres points dont vous vous dites qu'il est essentiel de les partager avec nos auditeurs qui vont, on l'espère, se déplacer pour aller voter, parce qu'on en parlait hors antenne avec vous. Il y a beaucoup de procurations qui sont demandées dans les mairies aujourd'hui.
C'est une bonne chose d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Alors oui, alors moi je voudrais parler de l'immigration. On n'a pas beaucoup parlé. Alors effectivement, Peut-être que ce n'est pas la circonscription la plus concernée par l'immigration. Néanmoins, elle risque de l'être dans les prochaines années si on ne change pas de politique. Je dis ça parce que, justement, je vais reprendre un exemple européen, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, beaucoup de législations qui nous impactent sont décidées à Bruxelles. Et justement, c'est aussi notre but au Rassemblement national. Ce qu'on veut, c'est contrecarrer ça et que l'Assemblée, le Parlement français retrouve son pouvoir, en tout cas ses pouvoirs légitimes. À Bruxelles, a été voté en avril dernier le pacte d'immigration. Pacte d'immigration qui impose la relocalisation de migrants dans notre pays et donc dans nos villages, inévitablement. Et donc cet accord, enfin ce pacte, parce qu'en fait c'est plusieurs textes en même temps, a été voté par les députés macronistes au Parlement européen. Précisons également que cet accord, ce pacte, hein, si les États ne veulent pas accueillir des migrants, ils devront payer une amende de plus de 20 000 euros, il me semble, par migrant. Donc évidemment, la Commission européenne va nous mettre la pression, va mettre la pression aux États pour accueillir des migrants. Et si, évidemment, les Français, les Sartois veulent qu'on cesse avec l'immigration de masse, l'immigration anarchique, qui, évidemment, nuit à notre sécurité, enfin, c'est juste un constat objectif et factuel, hein, beaucoup d'études le montrent, bah, si on veut rompre avec cela, si on peut rompre avec, quand je dis cela, évidemment, c'est l'insécurité qui est causée par l'immigration, et donc ce manque de courage, hein, de nos dirigeants qui ne veulent pas regarder la réalité en face et agir contre l'immigration de masse, bah si on veut changer cela, il faut voter à l'Assemblée nationale, il faut voter pour les candidats de l'Union nationale, parce qu'encore une fois, les députés macronistes, que ce soit au Parlement européen ou à l'Assemblée, votent des mesures pour l'immigration, et nous considérons que c'est une mauvaise chose.
Est-ce que vous considérez de façon, on va dire, automatique, immigration veut dire insécurité ? Est-ce qu'on doit déduire de vos propos, Romain Lemoigne ?
Non, du tout. Il y a évidemment des immigrés qui s'intègrent parfaitement. Et encore une fois, je précise bien qu'on n'a pas une vision exclusive de la nation. C'est-à-dire qu'il y a des immigrés qui travaillent. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Évidemment, ils sont les bienvenus. Hein, ceux qui respectent nos valeurs, nos normes, nos coutumes de vie, qui parlent français. Mais on va évidemment pas les exclure. Ceux qui ne commettent pas de délit, on ne va pas les exclure. Naturellement, on n'a pas une vision exclusive de la nation. Il faut bien le dire, des étudiants Erasmus qui viennent de l'étranger, on les accueille bien volontiers. Donc c'est évidemment pas un lien qui est essentialisant. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une grande partie, faut être honnête, d'immigrés clandestins qui commettent des délits. Je sais qu'il y a une étude, alors c'est pas facile de savoir parce que forcément, vu qu'ils sont clandestins, on peut pas savoir le nombre exact, mais selon les études, il pourrait y avoir 1 million de clandestins en France. Est-ce que c'est normal ? Je ne pense pas. D'autant qu'en plus, ils bénéficient de l'AME, donc de l'aide médicale d'État, 1,5 milliard d'euros par an. Bah, pour moi, c'est quand on sait qu'un Français sur trois renonce à ses soins parce qu'il n'en a pas les moyens, on devrait abroger cette aide médicale d'État qui profite à des immigrés clandestins, alors que ce milliard d'euros-là devrait profiter en priorité aux Français pour leurs soins, ce qui, moi, me semble absolument naturel et c'est même du bon sens, en fait.
Il vous reste 2 minutes, on ne peut pas relancer sur cet aspect des choses, puisque vous évoquiez encore une fois la santé sous l'angle de l'aide médicale d'État. Vous savez qu'il y a certains qui disent que pour la santé publique, il faut aussi faire attention à ce que nous ne soyons pas mis en danger aussi par des mesures qui feraient de sorte que les clandestins, les sans-papiers ne pourraient pas se soigner. Mais bon.
Mais c'est pour ça que justement on propose de finir avec l'aide médicale d'État et de la remplacer par une aide pour les urgences vitales. C'est pour ça que tout est réfléchi encore une fois et notre programme est prêt à être mis en place.
1 minute 30 qu'il vous reste, Romain Lemoigne, candidat pour ces législatives dans la 3e circonscription de la Sarthe. Dernier appel aux électeurs, j'imagine qu'avec votre suppléant Sébastien Compin.
Tout à fait, Compin.
Qui peut être votre copain aussi, pourquoi pas.
Oui, tout à fait.
Il s'agit de lancer un appel à la mobilisation des électeurs.
Tout à fait. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous abstenez pas. Ne vous abstenez pas, puisque si vous vous abstenez, si vous refusez d'aller voter, d'autant que, voilà, comme vous l'avez dit, monsieur, il y a des procurations en haut, donc vous pouvez faire des procurations, allez voter, puisque si vous n'allez pas voter, votre voix sera perdue, et donc effectivement, ce sont les macronistes et l'extrême-gauche qui vont en profiter. Et moi, je considère qu'après 7 ans de macronisme, vous l'avez vu, l'insécurité, le pouvoir d'achat qui baisse, l'immigration qui est en hausse continuellement, il faut rompre avec cela. Et on ne peut pas donner les clés du pays non plus à l'extrême-gauche, dont le front prétendument populaire n'a de populaire que le nom. Donc il faut se mobiliser, il faut voter pour le candidat qui est le plus susceptible de faire vivre les idées nationales, qui est le plus susceptible de défendre nos intérêts, puisque je suis la seule candidature de l'Union. Je suis la seule qui est soutenue par à la fois Éric Ciotti, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Mario Maréchal. Donc c'est pour ça que je pense que si on veut vraiment changer de cap, si on veut changer de politique, d'autant que les problèmes du pays ne sont pour moi pas une fatalité, eh bien il faut changer de politique et donc de dirigeants et donc en premier lieu de député.
Romain Lemoigne, candidat du Rassemblement National et puis de ses alliés, et avec Sébastien Compin dans la troisième circonscription de la Sarthe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu dans ce studio fléchois. Aujourd'hui, on est à la flèche, on alterne entre les deux studios avec les différents candidats. On recevra bien sûr tous les candidats qui auront répondu à notre appel à exprimer à vous, les auditeurs, leur vision pour cette troisième circonscription et puis bien sûr pour la France. Bonne campagne à vous.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur les ondes de Radio Prévert.
Très bonne journée.
Merci, vous aussi.